C'est vous qui dites.
L'émission d'info locale.
Brest.
Bonjour tout le monde. Vous écoutez C'est vous qui le dites, notre quotidienne d'info locale sur Radio U. Aujourd'hui, on sera avec Anaëlle et Diane du Centre social et culturel de Bellevue. On discute avec elle de Bellevue joue le jeu, un rendez-vous spécial jeu qui a lieu demain. On pourra aussi un peu parler de ce qu'ils font au centre social, de leurs actualités. À la fin, on écoutera un reportage d'Emma et Sam sur la grève Bibus. Mais avant ça, on est avec Pierre, qui est chargé de production à l'association Escabelle, et Rosène, qui est coordinatrice de l'association Les Pieds Nus. On discute avec eux des temps forts pour la première édition de Danse en Fête au Mac Orlan les 28 et 29 avril. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Bonjour.
Très bien, et toi ?
Ah bah très bien, merci. Bonjour Rosène.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va bien, très bien.
Bon, nickel. Alors vous êtes associé pour organiser donc Danse en Fête, mais dans un premier temps, peut-être qu'on pourrait parler un peu de vos associations, qui sont toutes les deux des associations de danse. Alors premièrement, Les Pieds Nus, donc c'est une école de danse. Vous êtes basée à la PAM et vous êtes orientée vers la danse contemporaine. Rosène, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ?
Oui, ben c'est, t'en as déjà dit pas mal. En fait, c'est une association qui existe depuis 2010. Donc nous, on propose des cours hebdomadaires de danse contemporaine pour tous les âges, de 4 ans jusqu'à, voilà, on a même des cours seniors le vendredi matin. Et puis on propose aussi des ateliers plus ponctuels, des stages. Toujours en lien avec la danse contemporaine ou autour de la danse contemporaine, il y a aussi des choses en lien avec les pratiques d'éducation somatique ou l'improvisation. Et puis on est aussi, on intervient aussi en milieu scolaire et aussi dans les structures spécialisées.
Et toi, du coup, comment tu t'es dirigée vers Les Pieds Nus ?
Eh ben, en fait, moi, je suis à l'initiative des Pieds Nus.
Okay.
Donc c'est voilà, c'était des circonstances qui faisaient que je travaillais pour une association à ce moment-là qui s'est arrêtée. Et dans cette association, j'avais quand même un certain nombre d'élèves qui avaient envie de continuer à travailler avec moi. Donc ça s'est fait naturellement. Voilà, les pieds nus sont apparus pour que je puisse garder le lien.
Ah mince, ça a coupé. Oui, parce qu'on est au téléphone, en fait, avec Rosène, elle n'est pas avec nous. Est-ce que, Rosène, tu nous entends ?
Oui, moi, je vous entends très bien.
Ok, nickel. Bon, ça a juste coupé un petit peu sur la fin de ce que tu disais, moi, je n'ai pas entendu.
D'accord. Je disais que moi, je suis arrivée dans Les Pieds Nus parce que je travaillais dans une autre association dans laquelle j'avais des élèves et cette association s'est arrêtée. Et pour garder le... avec ses élèves, en fait, j'ai créé Les Pieds Nus.
D'accord, donc c'est une association qui s'est construite, en fait, un peu à partir de ton ancienne asso aussi, c'est ça ?
Voilà, enfin, pour laquelle je travaillais, enfin, un peu dans la continuité de quelque chose que j'avais déjà construit.
Ok, d'accord. Ben, merci beaucoup. Et du coup, toi, de ton côté, Pierre, tu es le seul salarié de l'association Escabelle. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du coup de l'association ?
Oui, c'est ça. Alors en fait, Escabelle a été créée il y a 40 ans déjà, en 1986. Et en fait, à la base, c'était une équipe d'enseignants de l'école primaire publique de Boa qui avait pour idée à l'époque, donc c'était assez novateur, d'amener la danse à l'école. Et du coup, au fur et à mesure, l'association s'est développée. Le festival Entre en danse est né aussi à la fin des années 90 et continue toujours aujourd'hui. Okay. Cette année, ce sera la 28e édition. Ce festival, du coup, il a lieu dans tout le Finistère et il valorise le travail chorégraphique réalisé dans le milieu scolaire de la maternelle jusqu'à l'université. Et en parallèle de ça, du coup, on fait intervenir des artistes dans les écoles publiques du département. On fait de la formation aussi à l'enseignement de la danse envers les enseignants et les personnels de l'animation. Et voilà, l'organisation d'événements culturels autour de la danse. Donc voilà, nous, on est vraiment une association d'éducation artistique et culturelle et une association d'éducation populaire.
Du coup, vos deux associations, elles se ressemblent autant qu'elles se complètent au final, parce que du coup, bah, de ce que je comprends avec Escabelle, vous allez plutôt aussi, enfin, même s'il y a cette notion du coup d'éducation populaire à la danse, il y a aussi ce côté où vous êtes avec les artistes, tandis que Les Pieds Nus, c'est vraiment une école, quoi, du coup, c'est ça?
Oui,
Oui, c'est ça.
ouais. Vas-y, Rosane.
Oui, c'est sûr qu'il y a l'aspect école, mais on intervient aussi en milieu scolaire, donc c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans ce cadre-là aussi avec Escabelle. Et puis les Pieds Nus aussi organisent des événements pour valoriser la danse contemporaine à Brest, donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'on s'est retrouvés avec Escabelle.
Et donc ça fait, enfin c'est pas la première fois du coup que vous créez quelque chose ensemble. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des prémices du coup de l'événement qui va avoir lieu les 28 et 29 avril?
Alors, du coup, en fait, à la base, Escabelle organisait un événement qui avait lieu à la Maison du Théâtre jusqu'en 2016 et qui s'appelait l'Édit de danse. Et du coup, qui avait pour but de valoriser la création amateur. Et l'association Les Pieds Nus organisait le festival Soli, qui mettait à l'honneur les solos en danse contemporaine. Et du coup, voilà, on a eu pour idée de mettre nos compétences en commun pour créer ce nouveau événement qui s'appelle Danse en fête. Et voilà, qui mettra à l'honneur la création chorégraphique amateur du territoire brestois au Mac-Orlan.
Ok, alors, pardon, donc ça va se jouer sur 2 jours, 2 soirs plutôt. Donc le mardi 28 avril au Mac-Orlan à 20h, il y aura une soirée qui sera dédiée à la présentation de projets chorégraphiques locaux. Alors est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu le programme de cette soirée d'ouverture?
Alors ça commencera à 20h et en fait il y aura 8 groupes qui passeront sur cette soirée. Alors il faut savoir qu'en fait on a fait un appel à candidature en novembre dernier et en fait ces 8 groupes-là ont été sélectionnés. Et l'idée c'était aussi que chacun de ces 8 groupes puisse bénéficier d'un regard extérieur d'un artiste professionnel du territoire brestois. Donc chaque groupe a été accompagné à raison de 4 heures. Par un artiste du territoire pour avoir un autre regard sur sa pratique et voilà et alimenter son projet de création pour voilà le montrer dans des conditions scéniques professionnelles le soir du 28 avril au Mac-Orlan.
D'accord, donc il y a un travail aussi au préalable, évidemment, quand même assez conséquent pour cette soirée. Comment vous les avez accompagnés, que ce soit avec Les Pieds Nus ou Escabelle, par rapport à cette soirée-là?
Alors du coup, en fait, on a fait appel aussi à un appel aux artistes professionnels du territoire et on les a mis vraiment en lien chaque groupe avec un artiste. Donc ce sont plutôt les artistes en fonction de ce qu'ils avaient pu voir par rapport à ce que les groupes nous avaient envoyé. Voilà, ça s'est fait un peu par affinité, pas forcément par esthétique réciproque, mais un petit peu aussi. Donc voilà, ça s'est fait vraiment au feeling un peu.
Et est-ce que vous pourriez nous teaser quelques spectacles potentiellement?
Oui, alors je ne sais pas, Rosane, si toi tu veux en dire quelques-uns.
Bah oui, on peut parler de ces 8 propositions. Donc on a un groupe de danseurs qui fait un travail à l'EHPAD de Kerlévenez, il me semble que c'est le nom de l'EHPAD. Donc c'est une animatrice qui va accompagner, je crois que c'est 4 personnes âgées qui sont résidents de l'EHPAD, qui vont faire une proposition. Ça s'appelle Danse avec les stars. Ensuite, on va avoir un groupe de danseuses qui présente un projet qui s'appelle Dune. Donc là, c'est plutôt des danseuses qui sont en voie de professionnalisation, enfin en tout cas qui sont plutôt dans quelque chose d'un peu émergent. Ensuite, on va avoir un duo qui s'appelle In Situ, qui est en lien avec les métiers de la mer. C'est 2 scientifiques de la mer en fait qui à travers la danse parlent de leur profession. Et on termine cette première partie par une chorégraphie qui s'appelle Beware, C'est quatre femmes qui proposent un travail sur la répétition et qui est assez inspiré du travail de la chorégraphe Leïla K. Et ensuite, on a une deuxième partie avec un duo qui où il y aura une musicienne et une danseuse. Donc, c'est un travail autour de la danse et de la voix. Ensuite, on a un solo qui s'appelle « Emprise » qui va plutôt dans un style plutôt hip-hop, enfin différents styles, mais enfin en tout cas avec une majeure hip-hop. Et ensuite, on a... redis-moi, Pierre, qu'est-ce qu'on
alors,
a
du coup,
après
ensuite,
le solo
il y a un trio... Donc, qui s'appelle les Space
oui,
Girls.
Le trio de Space Girls. Ouais, donc qui... là, on a plutôt une couleur clown, danse contemporaine. Et on finit par un groupe. Là, on est plutôt sur de l'afro-dance. Voilà, pour terminer cette soirée.
C'est ça.
On est vraiment sur une programmation quand même éclectique. Mmh. Où chacun
exactement.
Pourrait trouver son bonheur. C'était une de vos volontés d'ailleurs d'essayer de rassembler un maximum de monde autour de la danse.
C'est ça, oui, en fait. Il y a la fête de la musique le 21 juin, voilà, tout le monde a cette date en tête. Mais nous, en fait, on a fait cet événement, c'est autour de la journée du 29 avril qui a été décrétée Journée internationale de la danse.
Ah oui, plus underground que la fête de la musique.
Et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, la fête de la musique, à la base, ça avait été créé pour mettre à l'honneur les amateurs, les musiciens amateurs. Et du coup, voilà, on a envie de se saisir aussi de cette journée internationale de la danse pour valoriser les artistes chorégraphiques amateurs, les artistes du territoire, et montrer que voilà, la danse, la danse, ça peut faire un peu niche, mais en final, c'est une esthétique qui en recoupe d'autres aussi, et c'est vraiment accessible à toutes et tous. Ouais.
Et du coup, donc, ça, c'est la soirée d'ouverture, entre guillemets. Mm-hmm. Mais le mercredi 29 avril, du coup, toujours au Macorlan, à 18h, le Macorlan, du coup, ouvrira ses portes pour une scène ouverte. C'est gratuit. Qu'est-ce que c'est qu'une scène ouverte en danse?
Du coup, ce sera à 18h. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais la veille, le 28 avril, la soirée est payante, mais c'est du coup un tarif plein 6 euros, tarif réduit 4 euros et gratuit pour les moins de 12 ans.
Okay.
Et la journée du mercredi et la soirée du mercredi est gratuite, donc avec une scène ouverte à 18h. Donc là, pareil, en fait, on a fait un appel aux personnes qui souhaitaient venir. Donc là, il y avait vraiment moins de critères, c'est vraiment qui veut s'empare de la scène et on voulait vraiment faire ça dans un esprit. Voilà, le public peut venir repartir dans la salle du Macorlan. Il y a vraiment très peu de technique, c'est les artistes chorégraphiques qui viennent avec leur musique et ensuite qui occupent le plateau comme ils le veulent. Donc voilà, c'est ça l'idée de vraiment faire un peu d'ouvrir un peu les espaces du Macorlan et faire en sorte que voilà, de passer un moment convivial. Autour de la danse.
Et du coup, la scène, elle est aussi ouverte à des gens qui ne sont pas pros, je veux dire, des amateurs. Ça permet aussi, en quelque sorte, d'encourager à la création, j'imagine.
C'est ça, oui. Ça, c'est vraiment l'idée numéro un de Danse en Fête. C'est vraiment de valoriser la création amateur, les amateurs. C'est pas pour objectif de mettre en avant les artistes chorégraphiques professionnels. Il y a d'autres festivals, d'autres événements qui le font très bien, et au Macorlan en plus. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de se mettre dans cet interstice-là, parce qu'on a constaté avec Rosen qu'il y avait un manque d'espace pour ces personnes-là, en fait, pour qu'elles puissent montrer leur travail. Et voilà.
Et comment ça s'organise justement une scène ouverte de votre côté?
Alors là, du coup, cette semaine, c'est vraiment bien avoir la confirmation de chacune des personnes qui sera présente, de savoir qu'elles aient bien toutes les informations avant, etc. C'est pas la partie la plus compliquée forcément. C'est surtout, la veille où là, il y a des filages pour la soirée du 28 avril. Du coup, il y a 8 groupes et chaque groupe doit avoir un filage de 1 heure. Du coup, le lundi et le mardi. Donc là, c'est plutôt des questions organisationnelles. Donc là, la scène ouverte, ça va vraiment être un format plus simple, entre guillemets. Ouais.
Et juste après la scène ouverte, il me semble que c'est à 20h. Il y a une projection de courts et moyens métrages réalisés par des réals bretons. Alors pourquoi vous aviez décidé de relier la danse et le cinéma pour cette soirée?
Rosane, bah, tu veux peut-être dire un mot?
Oui, ben c'est, ben, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du cinéma. Enfin, en tout cas, ce sont des objets artistiques de danse avec le média de la vidéo. Donc, c'est quand même des objets chorégraphiques, mais avec un support, voilà, qui est la vidéo. Et c'est vrai que c'est. Alors, on a à la fois des chorégraphies qui ont été filmées, donc vraiment un travail chorégraphique qui a été pensé pour une vidéo. Et puis il y a aussi d'autres films qui sont plutôt de l'ordre du documentaire. On a un mélange entre du documentaire et puis avec des interviews, et puis on montre aussi des passages dansés. Donc voilà, c'est à peu près sur les 8 films qui sont présentés, il y a la moitié, c'est vraiment des objets artistiques en soi, et puis l'autre moitié, c'est plutôt de l'ordre de documentaire. C'est des courts-métrages, hein, on est sur des formats de 10 minutes maximum.
Ok, d'accord. Et du coup, comment est-ce que vous êtes tombé sur ces objets de création artistique?
Alors en fait, du coup, de par nos associations, souvent on travaille avec des vidéastes aussi, parce que du coup, c'est vrai que la danse et la création vidéo, c'est des esthétiques qui se mélangent beaucoup. Et donc, en fait, c'est aussi en faisant appel à des associations, des structures culturelles du Finistère, en fait, on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de structures qui réalisent des vidéos et ça reste en interne. Je pense à des projets d'éducation artistique et culturelle, etc. Et ça, c'est dommage parce que c'est pas montré au grand public, alors qu'en fait, c'est des vidéos de très bonne qualité, enfin de très belle qualité. Voilà, et comme disait Rosen, il y a aussi voilà des réalisateurs, des réalisatrices, voilà, qui, où là c'est vraiment plus un objet artistique en soi, c'est vraiment une création vidéo où là ça va être beaucoup plus sensible, on va dire. Donc pour trouver ces vidéos, c'est ouais, c'est on a en fait de par nos réseaux, voilà, on a demandé aux différentes structures et associations si elles avaient l'envie et si elles avaient des vidéos qui pourraient être intéressantes et pertinentes à montrer sur la scène du Macorlan, qui plus est, le Macorlan est un ancien cinéma, donc voilà, ça se recoupe aussi.
Ah bah ouais, Ah, je savais pas ça, bah voilà, pour la petite histoire brestoise. Mais oui, du coup, ça permet aussi de, j'imagine, rendre compte de leur travail pendant un gros temps fort, où du coup, vous mêlez aussi, on y vient avec le Macorlan. Qui est quand même une belle salle de spectacle où il se passe plein de spectacles, notamment de danse. Est-ce que vous voudriez dire un mot du coup sur ce lieu?
Oui, alors du coup, le Macorlan, c'est vrai que c'est une superbe salle, donc c'est un théâtre municipal. Et donc, c'est vrai, là, depuis peu, ils ont fait le choix de vraiment travailler exclusivement qu'autour de la danse. Et donc, c'est vrai que c'est super chouette d'avoir un équipement comme ça dans la ville de Brest, et voilà, qui répondent aussi aux attentes des associations locales, voilà, qui ne programment pas que des artistes professionnels, etc. Donc c'est super chouette d'avoir ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Rosane.
Bah, c'est vrai que en fait, là, cet événement danse, en fait, il est vraiment en partenariat avec le Macorlan, c'est-à-dire que à la fois il nous accueille, mais on a pensé l'événement ensemble, en fait. Nous, on est arrivés avec notre projet, notre idée, vers Virginie Salmon, qui est directrice du Macorlan. Et elle, en même temps, elle avait vraiment cette envie de mettre en avant la danse pour la Journée internationale de la danse du 29 avril. Et finalement, on s'est retrouvés avec des envies communes. Et puis, on s'est dit, on n'a qu'à faire votre projet le jour de la fête internationale de la danse. Et comme ça, on s'associe pour vraiment mettre en avant ce projet.
Ok, d'accord. Et du coup, pour vous, c'était important de tisser ce lien-là, déjà entre les Pieds Nus, Escabelle, aussi du coup avec les associations avec lesquelles vous travaillez par rapport au court-métrage, et le Macorlan aussi.
Oui, c'est vrai que là, cet événement, en plus de valoriser la création amateur, ça permet aussi de fédérer un peu tout le tissu associatif local, de se faire rencontrer les gens. C'est super de voir des artistes amateurs qui, du coup, aussi ont contact avec des artistes professionnels. Enfin, ça permet de créer un peu une émulation autour de tout ça. Donc, c'est ça aussi l'idée, ça crée beaucoup d'externalités positives qu'on ne peut pas forcément appréhender, mais en tout cas, c'est ça aussi le but de ce temps fort artistique. Ouais.
Et pour la suite, qu'est-ce qui arrive chez Escabel et chez Les Pieds Nus?
Chez Escabel, nous, on a notre AG le mercredi 6 mai. S'il y a des auditeurs ou des auditrices qui sont intéressés, ce sera à 17h30 à la Maison pour tous de Saint-Pierre. Et sinon, on organise aussi le festival Entrant Danse, comme je parlais précédemment, et d'autres projets aussi. Donc, un projet dans le cadre du carnaval qui est organisé par le Centre social de Kerhourien, et aussi un projet de danse hip-hop dans le quartier de Kerargaouyat. Et donc, ça sera les projets de Escabel d'ici la fin de l'année scolaire. Ouais.
Du coup, bien sûr, vous pouvez vous renseigner sur le site d'Escabel si vous voulez vous tenir au courant de leurs actus. Et du côté des pieds nus, du coup, qu'est-ce qui se passe?
Alors, du côté des pieds nus, nous, on arrive quand même sur la fin de la saison. Donc, nous, on, avec une grande majorité des élèves, on prépare le spectacle de fin d'année qui aura lieu au Macorlan fin juin. Donc, on travaille là-dessus. Ce sera le 27 juin, plus exactement un samedi en fin d'après-midi à 18h30. Et puis, durant tout l'été, nous, on propose les ateliers d'été. Donc, c'est tous les lundis soirs sur le mois de juillet, sur le mois d'août. On propose ces différents artistes chaque lundi qui vient présenter un peu son travail et qui propose un atelier. Donc voilà, c'est sur inscription et on propose ça. Et puis ensuite, on prépare la saison prochaine 2026-2027. Et donc, comme Escabel, nous, on a un site internet, lespiedsnus.net. Donc voilà, si les gens veulent avoir plus d'infos sur tout ça, ils peuvent les retrouver sur le site.
N'hésitez pas en tout cas à aller checker un petit coup leur site. Mais merci beaucoup en tout cas d'être venu avec moi ce soir, c'était un plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.
Avec plaisir. Alors, avant de retrouver Anaëlle et Diane, on va écouter Quarto d'Hôtel. Bonne écoute sur Radio U. C'était Quarto d'Hôtel sur Radio U, la 101.1. On est maintenant avec Annaëlle et Diane du Centre social et culturel de Bellevue. Bonjour.
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 Ça va bien ?
Ça va, ça va.
Super.
Alors, vous êtes là pour parler de l'événement Bellevue joue le jeu qui a lieu demain, mais peut-être qu'on pourrait commencer par présenter un petit peu le Centre social et culturel de Bellevue.
Donc. Eh bien, le centre social de Bellevue se trouve à Bellevue, sur le quartier de Bellevue, bien dans le centre du quartier, où il se déroule en fait, des activités pour tous les publics, des tout-petits jusqu'aux seniors. Et l'idée, c'est de créer du lien social entre les habitants, et d'autant plus pour les personnes qui habitent seules, les personnes isolées, les personnes qui sont en difficulté. Et voilà, tout ce qu'on propose, c'est vraiment pour être ensemble, vivre ensemble et faire un maximum d'activités culturelles, d'ouverture culturelle.
Et du coup, c'est quoi vos rôles, vous, au sein de la structure ?
Pour ma part, je m'occupe de nombreux projets. Je développe des projets avec de la petite enfance jusqu'aux seniors, avec quand même une priorité sur l'éducation des enfants et les parcours de jeunes dans l'animation et de l'éducation populaire.
Et moi, je suis animatrice en charge de l'allée verte. Donc, en fait, je me rends sur l'espace public pour aller à la rencontre des habitants et voir si nos activités sont encore en lien avec leurs besoins et voir aussi s'ils aimeraient proposer, eux, des activités au sein du centre social ou sur l'espace public.
Ok, d'accord. Donc, toi, tu es vraiment dans le dialogue, du coup, avec les habitants du quartier et de Brest, peut-être plus largement aussi.
Surtout du quartier. Après, on travaille aussi en partenariat avec les autres centres sociaux brestois, les maisons de quartier, tout ça. Donc, il y a des gros projets en lien avec d'autres structures de quartier. Mais c'est vrai qu'après, nous, on a un camion d'animation avec le centre social. Donc, en fait, ça nous permet d'aller sur les différents secteurs du quartier de Bellevue pour aller rencontrer les habitants et en fait juste discuter avec eux et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble.
Ok, et du coup, donc, sur l'année, vous proposez des animations, des activités, que ce soit pour les jeunes, plutôt les enfants, que pour les adultes. Sur l'année, qu'est-ce qu'on peut retrouver au centre social de Bellevue ?
Beaucoup d'activités. Comme dirait le directeur du centre social, ça va de A à Y, parce qu'on n'a pas de Zumba, mais ça va des arts plastiques au yoga. Et après, pour les enfants, il y a de l'accompagnement à la scolarité, il y a l'accueil de loisirs, il y a du breakdance hip-hop. Et après, il y a du tricot, il y a beaucoup de jeux, tarot, scrabble. Enfin, c'est impossible de tout lister là, vu qu'on a je ne sais pas combien d'activités d'ailleurs. Est-ce que tu sais, Diane ?
On a 30 activités régulières et puis des activités plus ponctuelles. Alors, ce dont parlait Annaëlle sur l'espace public. On anime aussi un cinéma le dimanche pour comme il se passe rien le dimanche, il y a une fois par mois un film assez sympa pour tous les publics en général quoi. C'est vraiment
trop
adapté tout public.
Ah, trop bien. Et comment ça fonctionne du coup exactement? Je crois que vous avez à peu près une vingtaine de salariés, c'est ça?
On est 13 équivalents temps plein quoi, donc mais on est une bonne vingtaine voire trentaine en tout de salariés intervenants et à côté de ça on a plutôt 70 bénévoles qui aussi assurent des activités comme nous en fait qui s'engagent.
Ok, ouais, c'est ça, du coup, toutes les activités de A à X c'est aussi grâce aux bénévoles qui peuvent exister.
C'est ça.
Ok.
C'est surtout grâce à eux-mêmes.
Ouais, ils sont référents d'activité, c'est eux qui gèrent tout ce qui se passe dans leur créneau. Quoi.
Et du coup, vous, dans votre équipe, est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt spécialisés dans certains axes, je ne sais pas trop comment dire, de la vie, par exemple. Enfin, pourquoi je me posais la question ? Parce que j'ai lu que dans vos objectifs, il y avait par exemple favoriser l'accès aux droits. Est-ce que, par exemple, ça veut dire que dans votre équipe, y a des gens qui sont un peu calés, qui peuvent nous aider si jamais on a besoin ? Je ne sais pas, des choses comme ça.
Bon, on a à la fois des salariés qui favorisent l'orientation des personnes vers les services dont les gens ont besoin. Okay. On accompagne sur l'accès aux droits et avec d'autres associations comme Crésus pour les gens qui sont surendettés, France Service qui va aider autour du numérique ou la plume numérique aussi, où c'est aussi des bénévoles qui interviennent. On a une association qui s'appelle l'ABAF aussi, qui fait de l'alphabétisation pour les gens qui ne maîtrisent pas bien le français. C'est très divers et très, vraiment très varié. Quoi.
Vous avez un peu 25 casquettes différentes. Enfin, peut-être, je ne sais pas, vous me corrigez si ce n'est pas le cas, mais le point principal, c'est faire du lien entre les habitants. Mais c'est vraiment quels que soient les habitants et leurs besoins. En fait, tout le monde peut venir chez vous et demander à faire une activité ou un peu un coup de main pour quelque chose, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, nous, comme disait Diane, en fait, y a des associations qui font des permanences en fait, au sein du centre social. Donc, nous, on sait sur quels aspects ils interviennent. Donc, par exemple, comme disait Diane, s'il y a quelqu'un qui vient pour des cours de français, on va l'orienter vers la BAF. S'il y a quelqu'un qui a besoin de refaire son CV, on va l'orienter vers ICO. Et en fait, ces associations... elles ont des créneaux dedans au sein du centre social. Et sinon, on peut aussi accompagner des habitants pour aller au CEDAS, aller voir une assistante sociale ou autre. En fait, on est... Effectivement, on a tous une casquette un peu particulière, mais après, on va tous orienter les publics en fonction de nos spécialités. Pardon.
Et dans notre ADN des centres sociaux, on dit qu'on fait un accueil inconditionnel. On accueille tout le monde, peu importe qui il est, d'où il vient et ce qu'il pense. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir faire ça.
Est-ce que vous connaissez un petit peu d'où ça vient les centres sociaux, comment c'est arrivé ?
Alors les centres sociaux, ils sont nés plutôt en Angleterre, fin 19e, début du 20e siècle. Et puis ils se sont un peu égrenés en métropole, en France métropolitaine. La Deuxième Guerre mondiale, entre autres, même il y en a eu un peu avant, mais globalement après la guerre, où il a fallu s'occuper des enfants, des familles, les habitants en fait ont voulu s'investir et les centres sociaux sont nés un petit peu comme ça, avec la caisse d'allocation familiale et les habitants volontaires dans les quartiers.
Ok, et vous savez comment du coup il y a un centre social qui est arrivé à Bellevue ?
Alors à Bellevue, c'est la CAF qui a initié le centre social en 72, si ma mémoire est bonne. Et l'association des habitants est arrivée en 86 seulement. Donc il y a d'autres associations à Brest qui faisaient déjà du lien social, mais la CAF a dit à Bellevue, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un centre social pour que tous les habitants trouvent leur place et puissent s'investir au même titre que dans le milieu sportif, en fait. Il n'y avait pas encore beaucoup, beaucoup d'autres activités que le sport pour s'engager à l'époque.
Ok, mais depuis tout ce temps, donc ça continue. Là, en 2022-2025, ce que j'avais trouvé sur votre site, c'est que vous aviez pour projet, en tout cas, de faciliter, par exemple, l'accès au numérique pour tous, le développement durable et l'éducation à l'environnement, et la promotion de la santé et du bien-être. Quand j'avais lu ça, j'avais l'impression que c'était... des genres d'objectifs que vous vous donniez en certains laps de temps pour quelques années et que vous essayez du coup de mettre en œuvre, de mettre des moyens pour atteindre ces objectifs. Comment ça marche exactement tout ça ?
En fait, un centre social, ça écrit un projet social tous les 4 ans pour avoir l'agrégation CAF. Et en fait, on se donne justement des objectifs sur 4 ans et on essaye de les avoir, de les atteindre. Et à chaque fois, il y a un bilan tous les 4 ans. Et là, on vient justement de renouveler notre projet social.
Okay.
Et donc, on a un petit peu changé ces axes-là, ces objectifs. Et voilà.
Mais du coup, ça veut dire que quand même, c'est pas se renouveler, mais vous modernisez vos objectifs. Vous vous remettez en question, du coup, tous les 6 ans pour être à jour par rapport aux besoins des habitants aussi, j'imagine.
C'est tout à fait ça. Alors, c'est tous les 4 ans.
4 ans.
Voilà.
Je me suis emballée.
Mais effectivement, on fait une enquête auprès d'un maximum d'habitants de tous les âges pour avoir un petit peu l'esprit, l'ambiance, les besoins, retirer tout ça. Et on va orienter notre projet social en fonction de ces attentes-là et de ces besoins surtout.
Ok, trop bien. Mais en tout cas... j'en viens à ce aussi pourquoi vous êtes là, c'est l'événement de demain. Bellevue joue le jeu, du coup, un événement qui a aussi pour but du coup de tisser du lien entre les Brestois et les Brestoises. Donc au programme, il y aura des jeux de société. Qu'est-ce qu'on pourra faire demain ?
En fait, le projet, juste pour mettre le contexte, on le co-construit avec la PEPS, donc c'est une asso étudiante. Et en fait, l'objectif, c'était que nous, au centre social de Bellevue, on accueille beaucoup d'enfants et beaucoup de seniors. Et l'objectif, c'était de faire le lien entre les enfants, les étudiants et les seniors. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui plaît à tous les âges ? Et les jeux. Donc en fait, il y aura des jeux de société demain, mais il y aura aussi des jeux vidéo, il y aura des jeux petite enfance pour du coup les bébés, donc de 0 à 3 ans. Après, il y aura des jeux de société aussi pour les petits, donc de 3 à 7 ans. Et après, il y a les gros jeux de société,
jeux de plateau. J'ai vu aussi.
C'est ça, il y aura des Lego, des Capla, il y aura des grands jeux en bois qu'on peut retrouver souvent sur les kermesses ou autres. Et après, ouais, jeux vidéo, je crois que j'ai déjà dit, avec réalité virtuelle aussi. Donc, il y aura pas mal de choses à découvrir.
Et du coup, c'est vraiment un événement que vous avez construit avec la PEPS, du coup, donc, qui est une association étudiante qu'on connaît bien à Radio U, puisqu'elle est déjà venue, enfin, les gens sont déjà venus parler de la PEPS. Est-ce que c'était la première fois que vous créez un événement comme ça avec eux ?
C'est pas la première fois. L'année dernière, on a fait Bougain en fête devant la BU. Où on a créé un événement autour du bien-être et en particulier pour les étudiants et les habitants, mais les étudiants qui ne rentraient pas chez eux. Voilà, il y avait du massage, des crêpes, du dessin, des jeux également. Et puis l'année encore avant, donc il y a 2 ans, on avait organisé la fête de la nature ensemble devant la BU également, ou il y a 3 ans peut-être. Enfin voilà, c'est pas la première année. Et
vous les connaissez un petit peu.
On commence à bien les connaître. Ouais.
Et même là, lundi dernier, là, on était au jardin d'Armagnac. C'est un jardin aussi qui se trouve sur le quartier de Bellevue. Et on a fait un escape game enfants, seniors et étudiants, du coup. Avec les étudiants de la PEPS sur le thème Alice au Pays des Merveilles. C'était plutôt cool. Tout le monde avait l'air plutôt ravi de ce moment.
Trop, trop bien. Un escape game, la classe. Mais du coup, vous faites aussi le lien au final avec les associations et les habitants et les associations. Je rebondis sur ça par rapport à tout à l'heure. Juste penser à ça. Est-ce que du coup, sur la prochaine saison, il est tard, vous avez des événements en perspective au centre social ou des temps forts comme il y aura demain ?
Cet été, nous, on a pour projet aussi de dynamiser le secteur Kergouat sur Bellevue. Donc, on veut et on espère pouvoir faire un maximum d'animation en fait, sur le quartier de Kergouat cet été. Donc, on sait déjà que tous les jeudis, on fera des après-midi pétanque. Donc, ce sera sur le secteur Kergouat. Et les mardis, on sera en café ambulant, donc on prendra le fourgon du centre social et on se rendra sur les divers secteurs pour juste aller à la rencontre des habitants, boire des cafés, jouer à des jeux de société et autres en fonction, encore une fois, de ce que veulent faire les habitants. Ça peut partir en concours de poésie, ça peut... On est ouvert, on s'adapte.
Tout est possible.
Exactement.
Bon, trop bien. Est-ce que vous avez un petit mot, un petit truc à rajouter sur le centre social ?
N'hésitez pas à pousser la porte, on accueille tout le monde comme le disait Diane, et puis il y aura forcément quelque chose qu'on pourra faire ensemble, il y a toujours quelque chose qui plaît au centre social.
Et on fait du e-bowling presque tous les jeudis après-midi et qu'on cherche des étudiants, des jeunes pour coacher, parce que c'est du e-bowling senior pour participer à la Silver Geek.
Ok.
La finale interrégionale était à Angers il n'y a pas si longtemps. Et la porte est ouverte pour des coachs geeks aussi et qui aimeraient aider un peu les seniors à aller plus loin, quoi. Jusqu'à la finale nationale.
Voilà, ok.
On a espoir.
Il y a des objectifs ici.
Tout à fait. On y croit.
Trop bien. Bon, merci beaucoup en tout cas, Naël et Diane, d'être venues avec moi ce soir. Ça m'a fait super plaisir de vous recevoir.
Avec plaisir.
Merci.
Trop bien. Et bon courage pour demain, pour la suite, les prochains événements du centre social. En tout cas, on vous tiendra au courant. Du coup, tout de suite, on va écouter le reportage d'Emma et Sam sur la grève Bibus. Donc si vous preniez les transports en commun, vous l'avez peut-être remarqué, les salariés de Bibus sont en grève depuis le 7 avril. Bonne écoute sur Radio U.
On se bagarre tous les jours justement pour qu'il y ait suffisamment de bus le matin pour l'exploitation. Pour qu'il n'y ait pas de service raté. Et depuis plusieurs semaines, là, on fait tout ce qu'il faut pour avoir des bus et finalement on se rend compte le matin qu'il manque des conducteurs à l'exploitation. Donc c'est assez frustrant de rendre des véhicules disponibles pour qu'il n'y ait pas de conducteurs derrière.
Depuis le 7 avril, les salariés de Bibus sont en grève. 85% chez les conducteurs et 100% à la maintenance, la mobilisation est massive. Ils dénoncent un manque d'effectifs criant depuis la mise en place du nouveau réseau. Pour les usagers, cela se traduit par des retards et des départs non assurés. Les agents, eux, se voient refuser leur congé et rappeler sur leur jour de repos, de quoi mettre les équipes à bout de souffle.
Bonjour, je m'appelle Thierry Laurent, je suis conducteur de bus depuis 2009 chez Bibus. Je fais grève parce que je pose des congés et je n'ai jamais les congés que je pose. La boîte n'a pas été en capacité de faire en sorte qu'il y ait un dimensionnement, qu'il n'y ait pas suffisamment de personnes en fait qui soient embauchées. Et du coup, on n'arrive pas à avoir nos congés, quoi, parce que dans un bus, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière le volant. Avec le nouveau réseau, là, on se retrouve avec vachement plus de problématiques de congés parce que on est le même nombre et on doit faire 400 000 bornes de plus que ce qui est prévu, quoi. Donc
hop, et voilà, bienvenue dans les locaux syndicaux.
Merci.
Allez-y, rentrez. Donc là vous arrivez dans les locaux de la CFDT à Bibus. Je vous invite à prendre à gauche, à rentrer dans le couloir. On va aller voir les collègues de la CSSCT. Donc c'est la commission de santé et de sécurité au travail.
Nous avons été accueillis aux locaux des syndicats de Bibus.
Alors regardez pas un peu le bordel, il y a un petit peu de bordel, mais bon.
L'occasion de discuter avec les grévistes d'une dégradation des conditions de travail qu'ils observent depuis la reprise de Bibus par RATP Dev. Sébastien Pélénec, délégué syndical CFDT, nous explique.
Nous allons être avec la CARSAT et un psychologue du travail par rapport en fait à l'augmentation des accidents du travail, donc qui sont directement liés en fait à nos conditions de travail. Il faut rappeler qu'RATP Dev est arrivé en 2019 avec la bannière « Nous sommes là pour le dialogue social et ramener l'humain au cœur de nos priorités ». L'humain au cœur de leurs priorités, ça a été un suicide, ça a été des licenciements pour inaptitude, ça a été une multitude de grèves, ça a été des alarmes sociales pour discuter avec eux. C'est la vision d'RATP dans le dialogue social.
Au-delà des conditions de travail, c'est aussi la qualité du service public qui est en jeu.
Pour donner un exemple, sur une journée, on a eu 17 conducteurs qui n'étaient pas présents. Pas par l'absentéisme, pas par la maladie ou les accidents du travail, mais parce qu'en fait, on n'avait pas les effectifs pour pouvoir assurer le service public. Et en fait, nous, à un moment, c'est quand même de notre responsabilité, c'est notre métier de pouvoir emmener les usagers du transport brestois au travail, aux loisirs et tout ça. Et quand on voit la dégradation de notre service public, en fait, à un moment, notre réaction dans les discussions qu'on a pu avoir avec la direction, notre réaction est d'aujourd'hui de dire on doit se mettre en grève, malheureusement.
La direction a pourtant annoncé avoir anticipé le nouveau réseau grâce à 90 nouvelles embauches. Pour les syndicats, ces recrutements ont été mal répartis et ne répondent pas aux réels besoins, notamment en conducteurs. Nous avons sollicité le siège pour en savoir plus, qui n'a pas souhaité donner suite à nos questions.
Les attentes, elles sont très simples. Un effectif dimensionné par rapport à l'arrivée du nouveau réseau et au nombre de kilomètres qui ont augmenté pour pouvoir assurer un service public de qualité et des conditions de travail au niveau des congés et du respect des repos. Assez simple. Et de l'autre, on a eu, parce que par ce manque de conducteurs, la direction en fait ne respecte pas les accords d'entreprise et en fait a augmenté la sous-traitance. Et donc, on demande à ce que l'accord d'entreprise sur notre sous-traitance en fait, soit respecté. Parce que en fait, c'est le modèle social et économique de Bibus du coup, qui est mis en difficulté.
Pour les vacances scolaires, les grévistes avaient opté pour une grève de 59 minutes par jour, du lundi au vendredi. Une deuxième journée complète de grève est attendue le lundi 27 avril. Les syndicalistes décideront alors de la suite du mouvement, en fonction des réponses apportées ou non par la direction. En attendant, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de Bibus pour suivre l'état du trafic et les éventuelles perturbations du réseau.